Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'univers 99.9. Cette édition est consacrée à la première partie d'un entretien avec Gilles Amalvi, qui est écrivain, créateur sonore et critique de danse, et qui en ce mois de novembre présente et participe à deux spectacles. L'un qui s'intitule Nuée, de la danseuse et chorégraphe Emmanuelle Huyn, dont il a écrit les textes, et qui sera présenté le 13 novembre au Triangle, à Rennes. Et ce second spectacle, une conférence dansante où il sera sur scène le mardi 23 novembre au Triangle de nouveau, et ce, dans le cadre du festival Transversal. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'univers 99.9. Alors, nous recevons Gilles Amalvi, bonjour.
Bonjour.
Gilles Amalvi, vous êtes écrivain, critique de danse et créateur sonore, dramaturge aussi pour différents chorégraphes. Vous avez publié deux ouvrages qui s'intitulent Une fable humaine et High Boom aux éditions Quartanier. Et par ailleurs, vous avez un certain nombre de projets sonores, de créations sonores. Projet Épiméthée, par exemple, qui a été une exploration de l'écrit, justement, à partir du matériau sonore, qui est une grande dimension, enfin, une dimension importante de votre travail. On a pu vous recevoir pour nous parler de ce projet qui s'intitulait « Tes chansons ». Vous avez aussi des créations sonores telles que « Orphée, robot de combat », que l'on peut retrouver sur Internet, notamment. Vous êtes associé au musée de la danse de Rennes. Vous avez été aussi, vous êtes enseignant à l'école d'architecture de Rennes, à l'université de Rennes 2, et vous avez collaboré, donc comme je le disais, avec de nombreux chorégraphes. Vous naviguez entre poésie, création sonore, écrit sur la danse, la musique aussi, qui est une dimension importante aussi de votre travail. Et le mardi 23 novembre, le Festival Transversal vous invite et vous accueille pour une conférence dansante, une sorte de concert théorique, enfin, vous allez nous en parler justement, nous présenter, à la jonction justement de ces pratiques multiples que vous pouvez emprunter. Et par ailleurs, en ce moment même, il y a un spectacle de danse intitulé « Nuée », mené par la chorégraphe et danseuse Emmanuelle Huyn, et auquel vous avez participé à travers l'écriture des textes qui accompagnent et qui font partie intégrante de ce spectacle. Alors, une première question, justement, est-ce que vous pourriez nous parler de ces deux moments-là qui ont lieu en ce mois de novembre du Festival Transversal et de cette conférence dansante? Est-ce qu'on peut commencer par cette question-là? Qu'est-ce que cet objet?
Effectivement, ce n'est pas un objet très facile à décrire parce que au départ, il s'agissait du coup d'une tentative de réunir un peu différentes activités, comme vous venez de l'expliquer. Il y a la poésie qui est un peu le cœur, qui est un peu mon point de départ et l'endroit à partir duquel je rayonne dans mes différents champs d'activité. Donc pour moi, cette conférence est d'abord une sorte de poème qui s'intitule « Le corps ne bouge pas ». Il y a par ailleurs une dimension plus théorique ou critique qui est une sorte de forme de conférence où je parle de la question de l'immobilité pour essayer d'interroger la danse avec ce filtre-là, sachant que j'avais été extrêmement intéressé par une conférence de la chorégraphe américaine Yvonne Reiner qui s'appelle « Lecture on Doing Nothing », où elle parle de la différence entre faire rien et ne rien faire. Mmh. Ou en gros, son point de départ, c'est de dire que un corps, à partir du moment où il est en jeu, où il est en présence sur scène, quand bien même il ne fait rien, il ne peut pas rien faire. Il ne peut pas être rien. Il est toujours ce corps présent. Donc ça m'avait un peu interpellé, cette question à la fois du rien et de l'immobilité qui est présente chez de nombreux chorégraphes aussi. Interroger le mouvement à partir du non-mouvement, des choses qu'on peut retrouver chez des chorégraphes comme Jérôme Bell ou chez Boris Charmatz aussi, où la question de l'inertie est très, très présente, du corps du corps endormi, du corps presque mort en quelque sorte. Donc il y avait cette chose-là, et puis il y a de l'autre côté, en fait, comme une réunion de deux éléments, deux univers qui n'auraient pas dû se rencontrer. Ma passion, mon intérêt pour la question du rythme, et en particulier du rythme dans tout ce courant musical qui naît avec James Brown et le funk. J'ai moi-même une petite pratique amateur, en fait, à la basse, qui est un peu l'instrument que je me suis choisi comme un instrument qui pouvait assez facilement se prêter à la fois à un travail sonore, par exemple dans mon travail sonore pour la scène, pour le théâtre ou pour la danse, et en même temps pouvoir être un outil que j'utilise dans des formats plus... Voilà, juste un instrument, un micro, et puis... Donc je me suis dit, je vais essayer de voir ce que ça donnerait si je faisais une lecture de ce texte, Le corps ne bouge pas, tout en jouant à la basse des lignes de basse, de funk extrêmement... Enfin, sur lesquelles il est presque impossible de ne pas bouger, justement. On a au moins le pied qui se met à battre le rythme et les hanches qui commencent à démanger. Donc ça, c'était un peu le point de départ, cette friction entre, voilà, d'une part jouer des lignes de basse extrêmement bougeantes, tout en disant un texte qui interroge la notion d'immobilité. Et à partir de là, il y avait aussi évidemment une contrainte supplémentaire, c'est comment faire pour jouer, ayant encore une fois une pratique plutôt amateur, hein, je ne suis pas du tout un virtuose de la basse, jouer ces lignes de basse tout en parlant. Donc il y avait un peu cette dimension, faire plusieurs choses en même temps, quelque chose qui m'intéresse à la fois à travers l'histoire de la danse, puisque il y a une autre chorégraphe toujours du courant postmoderne américain, Trisha Brown, qui avait fait une pièce qui s'appelait Accumulation with Talking, où elle faisait la pièce qui s'intitule Accumulation, tout en parlant, et en parlant, en explicitant en fait ce qu'elle était en train de faire tout en le faisant. Donc cette dimension de faire plusieurs choses en même temps, ou de faire quelque chose tout en expliquant ce qu'on est en train de faire, m'intéresse beaucoup, et j'avais eu l'occasion de faire par exemple une sorte d'interview avec le chorégraphe Boris Chermatz, avec lequel j'ai beaucoup collaboré, comme vous l'avez rappelé, au sein du projet Musée de la Danse, qui est un projet qui est terminé aujourd'hui. Le Musée de la Danse s'est terminé en 2018, fin 2018. Et maintenant, Boris Chermatz a un autre projet qui s'appelle Terrain. Mais on a fait ensemble, tous les deux, Boris Chermatz, quand il était jeune homme ou jeune enfant, a fait beaucoup de ping-pong, à tel point qu'il aurait pu devenir joueur professionnel. Et du coup, moi, je lui avais proposé, aimant beaucoup faire du ping-pong et aimant beaucoup parler en jouant au ping-pong, je lui ai proposé de faire une interview, puisqu'on a fait beaucoup d'interviews tous les deux, tout en jouant au ping-pong. Et donc ça, on l'a fait en 2019, je crois, au CND. Donc un petit format d'une demi-heure qui s'appelait ping-pong, et où on fait un match de ping-pong tout en parlant de nos pratiques respectives, moi l'écriture et lui la danse. Donc pour moi, cette conférence, Le corps ne bouge pas, est une sorte de deuxième étape de cette... question, comment interroger la parole en mouvement, en fait. Une parole qui n'est pas figée, mais qui est remise en mouvement par le fait de faire autre chose.
Donc on retrouve justement ces différents champs, hein, la danse, le texte, l'écrit, la réflexion aussi, on peut dire théorique, sur ce qui est fait. Est-ce que justement ce spectacle, cette représentation nuée de Sabine Huyn,
Emmanuel
qui a lieu au TNB, c'est ça ?
Oui, c'est dans le cadre du festival du TNB là, qui a lieu actuellement. Donc nuée est jouée le 10 au 13 novembre. Et ensuite, il y aura la représentation de Mua, en fait, qui est une autre pièce de Emmanuel Huyn, qui date de 1995. Et en fait, ces deux pièces communiquent à travers le filtre en fait, d'une interrogation sur l'origine, puisque Emmanuel Huyn Le père d'Emmanueline était vietnamien et sa mère française. Et donc, Mua était une pièce qu'elle avait, qui est sa première pièce en tant que chorégraphe, qui allait interroger cette question du rapport à ce pays à la fois complètement étranger et en même temps présent dans son propre corps. Et Nuée est une sorte de réinterrogation de ce que ce pays fait dans son corps de danseuse qui a traversé à la fois différentes pratiques, le classique, le contemporain. Donc elle se sert de cet écho avec cette autre pièce. Et donc c'est une pièce sur laquelle elle m'avait proposé d'intervenir comme dramaturge.
Et alors là justement, quelle est la modalité à travers laquelle vous intervenez en tant qu'auteur?
Ben justement, en fait, moi j'aime bien quand il y a un déplacement qui se produit à partir d'une pratique pour aller vers éventuellement une autre pratique. Donc dans le cadre de Nuée, qui est donc un solo de Emmanuel Huyn, au départ on a beaucoup travaillé en studio tous les deux, puisqu'elle souhaitait avoir un interlocuteur pour échanger sur les questions de qu'est-ce que c'est le sujet aujourd'hui, qu'est-ce que c'est par exemple la question de l'errance, qu'est-ce que c'est que la question de l'adresse, puisque c'est une pièce où elle s'adresse à de nombreuses présences, celle de son père, mais aussi celle de chorégraphes ou d'artistes qui l'ont habité en quelque sorte. Donc on a passé beaucoup de temps en studio tous les deux à discuter de ces questions-là. Et comme elle l'improvisait beaucoup au plateau, et qu'en improvisant, elle parlait elle-même beaucoup, puisque en fait, Emmanuel Huyn a beaucoup travaillé sur et avec Trisha Brown, que j'évoquais tout à l'heure. Elle a même fait un livre d'entretien avec Trisha Brown. Donc cette dimension de faire sortir, ce que Emmanuel Huyn appelle faire sortir son jus, c'est-à-dire vraiment être au travail dans le corps, et en même temps, il y a des choses qui vont apparaître dans la parole et dans les mots, un peu inouïs, qui découlent directement du mouvement. Et donc moi, j'ai beaucoup pris de notes, ce qui est le travail de dramaturge, et puis commencé à écrire des petites choses, en fait, en la regardant danser. Et puis à un moment, je lui ai montré un petit peu les différents textes que j'avais pu écrire, qui étaient plutôt des sortes de poèmes, en fait, qui interrogeaient cette notion d'adresse, notamment, cette question de presque comme une sorte de lettre où on dit « cher », Cher. Le texte commence comme ça, par une suite de chair, au masculin, au féminin, au pluriel. Il y a plein de personnes auxquelles qui traversent son corps. Et puis, en lui montrant ces textes, on s'est dit que ce serait intéressant qu'il soit présent d'une manière ou d'une autre, sans expliciter ce que la pièce essaye de dire par le corps, c'est-à-dire sans ajouter une couche de sens à cette danse, mais plutôt pour introduire comme ça une sorte de présence autre. Pour moi, c'était très important que ce texte ne soit pas surplombant, qu'il ne soit pas une sorte d'explication de texte, mais au contraire qu'il ait une présence poétique beaucoup plus... Donc, par exemple, on s'est beaucoup interrogé, juste pour pas que je me perde, on s'est beaucoup interrogé sur de quelle manière faire apparaître ce texte. Donc évidemment, la première façon à laquelle on peut penser, c'est la voix. Mais justement, la voix, moi, je la trouvais trop présente. Donc, on s'est plutôt questionné sur la possibilité d'avoir le texte écrit. Donc, pour ça, on peut le projeter, mais on peut aussi utiliser des écrans de sous-titrage. Donc, qui ne sont pas des projections, mais qui sont plutôt comme un moniteur, en fait. Et on s'est beaucoup interrogé sur la hauteur. Normalement, les sous-titrages, ils sont très hauts. Quand on va au théâtre, ils sont soit à l'avant-scène, soit en hauteur. Et là, on voulait plutôt qu'ils soient à hauteur de regard, en fait. Quelque chose qui puisse disparaître, une sorte d'horizon qui est là, mais on peut le laisser de côté, on peut le regarder. Mais ça me paraissait très important qu'il ne perturbe pas, en fait, la lecture de la danse. Et du coup, voilà, ça c'était un déplacement intéressant. C'est que j'ai commencé plutôt à l'endroit de la dramaturgie, et puis... au final, le texte a pris une place assez importante dans la pièce. Et puis par ailleurs, en tant que poète, c'était très intéressant d'écrire pour un écran de sous-titrage, ce qui n'implique pas du tout les mêmes types de rapport aux mots que sur une page, parce que sur un écran, on peut faire apparaître un mot, le remplacer par un autre, on peut accumuler des couches de texte les unes sur les autres, on peut faire un all-over de texte, par exemple, où on ne peut plus rien lire du tout, mais où le texte se dissout en quelque sorte, devient une simple une masse de mots, un peu comme le corps est fait de tout un tas de nœuds, de muscles, de nerfs. Donc pour moi, ça a été aussi une recherche intéressante de voir comment traiter cet écran et en faire autre chose que juste une page ou faire apparaître mon poème, mais de pouvoir travailler avec le musicien, Pierre-Yves Massé par exemple. Il y a tout un passage en fait où la musique et l'apparition des mots travaillent dans une sorte de rythme saccadé ensemble. Travailler aussi avec la créatrice lumière Cathy Olive, qui a fait un très beau travail de lumière et de fumée. Donc il y a des moments en fait où la fumée et le texte s'interpénètrent, où la fumée vient recouvrir le texte. Donc il y a eu vraiment une circulation en fait de ce texte à la fois avec le travail du musicien, le travail de la créatrice lumière avec Emmanuel Wynne sur scène. Donc ces expériences de déplacement, moi, sont des choses qui m'intéressent beaucoup.
Justement, vous dites que tout part quand même, tout part du texte. C'est vraiment un travail d'auteur, d'écrivain. Mais vous expérimentez différents médias, comme je le présentais tout à l'heure, ou là, comme ces deux exemples, où vous pouvez aussi bien être dans une forme classique telle que le livre, ça a pu exister, mais aussi de l'enregistrement sonore, travailler avec des danseurs chorégraphes, faire des conférences en musique. Justement, qu'est-ce que... vous en avez parlé un peu à l'instant, là, mais qu'est-ce que ça décale dans le travail de poésie, justement, d'écriture, le fait d'aller tester différents médias ou médiums, est-ce que ça construit autrement les textes et les formes?
Ben, j'aurais presque envie de prendre la question par un niveau très basique, en fait, presque pratique. C'est aussi une sorte de réponse subjective. En général, ce qu'on fait est une réponse subjective aux problèmes qu'on peut rencontrer. Moi, il se trouve que, effectivement, comme vous l'avez rappelé, j'ai publié deux livres, mais qui commencent déjà un peu à dater maintenant. Et depuis ces deux livres, j'ai écrit énormément de choses, mais je dois dire que je peine à boucler, en fait. Alors, c'est lié à la fois à la question de l'édition, tout simplement, avoir un interlocuteur éditeur qui est souvent aussi une présence qui aide à terminer quelque chose. J'ai plusieurs manuscrits qui sont soit terminés et pas publiés, soit en cours d'écriture depuis longtemps et où je sens que j'ai du mal à les finir. Donc aussi le fait de travailler avec d'autres, tout simplement, c'est-à-dire que le travail d'écriture est un travail très solitaire, travailler avec d'autres, avec des chorégraphes, avec des artistes, avec des musiciens, et une manière aussi de cadrer. On ne l'a pas encore évoqué, mais par exemple, là, j'ai participé au mois de juin à un projet qui s'appelait Le Pays, qui était dirigé par le théâtre de Bécherel et l'école parallèle imaginaire de Simon Gauchet. Donc c'était un projet pour lequel Simon Gauchet avait réuni autour de lui à la fois il y avait une paysagiste, une Léa Müller, une performeuse artiste, Joanna Rocard. Il y avait également un metteur en scène et écrivain, Guillaume Lambert. Il y avait une ingénieure agronome, Emma Flippon. Il y avait comme ça, voilà, des personnalités. J'espère que j'ai oublié personne. J'ai perdu le fil. Voilà, ça c'était un projet pour lequel on a parcouru le territoire de Bécherel. On a beaucoup marché, beaucoup discuté les uns avec les autres. Et où il y avait un objectif qui était de produire tous ensemble une marche de deux jours ouverte au public. Et là, par exemple, ça pose un cadre d'écriture. Donc j'ai écrit beaucoup de textes qui balisent le chemin. Donc je pourrais même éventuellement vous lire quelques extraits qui sont des sortes de petits haïkus. Et j'ai également produit un autre texte que j'ai fait lire par tous les participants et toutes les participantes du projet, qui a donné lieu à une pièce sonore qui était diffusée dans une cabane dans la forêt. Donc il y a à la fois c'est rencontrer d'autres subjectivités et d'autres pratiques artistiques qui, moi, souvent mettent en marche aussi un désir de déplacer. J'aurais pas forcément... moi tout seul à ma table de travail écrit sur les arbres et les animaux. Donc il a fallu inventer dans le cadre de ce projet aussi une manière qui me paraisse intéressante de traiter ces sujets. Et par ailleurs, c'est vrai que le collectif, le fait d'être en collaboration avec d'autres individualités, et pour moi aussi une manière de sortir un peu de ce carcan solitaire de l'écrivain. Et ça m'amène à faire des choses que je n'aurais pas faites si j'étais juste tout seul avec mon carnet et mon ordinateur.
Oui, de fait, c'est vraiment aussi l'image de l'écrivain dans son coin qui va formuler ses ouvrages. Là, vous êtes dans un décalage par rapport à ce qu'on se figure en général être le travail d'un écrivain. Vous allez, y a une dimension très collective.
Ben, moi, je me souviens que, en fait, la première fois que j'ai commencé à faire du son, tout simplement, c'était lorsque j'ai monté ce projet qui s'appelait Radio Épiméthée, qui était une sorte d'adaptation théâtrale et musicale de mon premier livre qui s'appelle Une fable humaine. Au départ, j'avais juste contacté un ami qui était comédien. On a commencé à travailler sur le texte tous les deux. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien faire des petits trucs sonores pour accompagner ce qu'on est en train de faire. Donc, j'ai découvert les logiciels de montage. Je me suis amusé à coller des petits bouts de trucs. Voilà ce qui peut arriver quand on découvre les logiciels de montage. Il y a une sorte d'excitation à voir qu'on peut fabriquer du son avec à peu près n'importe quoi. Donc à un niveau très artisanal, j'ai découvert le son comme ça. Et puis petit à petit, voilà, il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans le projet. Il y a eu un ami, Joris Lachaise, qui est aujourd'hui réalisateur de films documentaires et qui avait fait une sorte de montage à partir d'images réalisées par un artiste, Juan Camelo. Il y a un autre ami, Florent Lahache, qui est philosophe, qui a un peu accompagné le projet comme regard extérieur. Et tout ça a formé une sorte de petite communauté lors d'un festival où on était invité pour présenter ce projet. Et c'est vrai que cette espèce d'émulation collective, moi, m'a beaucoup plu. Et je me suis rendu compte que c'était presque indispensable à mon économie subjective de pouvoir alterner entre des moments où je suis tout seul, où j'écris, où je réfléchis sur des projets complètement... Donc là, ça fait pas mal de temps que je travaille sur un ensemble poétique qui s'appelle Poésie classe moyenne, par exemple, qui a été publié, dont certains extraits ont été publiés dans la revue Incise. Ça, c'est vraiment un projet poétique à part entière qui me tient à cœur et donc je sais qu'il faut que j'arrive à le boucler et à le publier. Et puis par ailleurs, donc d'alterner entre ces moments solitaires, on va dire, et des moments qui redonnent aussi une sorte d'élan collectif en travaillant sur d'autres. Et c'est vrai que du coup, ça m'a aussi permis de découvrir le travail de son, qui est aujourd'hui une part de mon activité importante, puisque je travaille aussi avec notamment un metteur en scène qui s'appelle Antoine Segarra, avec lequel je travaille maintenant sur un troisième projet. On a fait un premier qui s'appelait Anthologie, avec le H au début, comme dans Hanté, qui est un projet d'investigation de lieux. Donc on avait fait ce premier anthologie à l'École d'art de Lorient, et où là, mon travail sonore était une sorte de mélange. Je jouais de la basse en live, il y avait tout un tas d'enregistrements que j'avais fait sur le port de Lorient, que je manipulais aussi en live. Il y avait tout un travail de composition également. On a fait une deuxième pièce, Quantique, qui a été montrée au mois de juin au Théâtre de l'Aquarium et qui va être remontrée en janvier au Théâtre de Vanves. Et là, on initie un troisième projet qui s'appelle Le Renard de l'Histoire. Donc là, je reviens de Célestat en Alsace, où on a fait la première résidence de travail sur ce projet avec de nombreux, enfin avec quatre artistes qui y participent. Et maintenant, le travail de son fait vraiment partie de ce que je fais, de mon équilibre personnel. Mais ça a commencé au départ juste en bidouillant des sons pour accompagner mes textes.
Mais pareil, alors on parle de tous ces médias, ces médiums que vous empruntez. Est-ce que vous pourriez nous parler, malgré tout, de... voilà, je sais que vous avez été un grand lecteur de poésie, évidemment. Quel est un peu votre vécu? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des différents auteurs qui vous ont marqué, d'auteurs en poésie notamment, qui vous ont marqué et qui pourraient nous permettre de comprendre aussi la manière dont vous envisagez aussi l'écriture en poésie et les partis pris que vous faites?
Sur les auteurs, je ne serais pas forcément très très dissert parce que moi, je localise plusieurs moments importants, en tout cas dans mon rapport à la poésie. Sachant, voilà, j'écris de la poésie depuis très longtemps, depuis que je suis adolescent, comme beaucoup. Il y a vraiment eu un moment, en fait, pendant mes études, où j'ai découvert Olivier Cadiot, par exemple, qui était un auteur extrêmement important, à la fois, enfin, pour plusieurs raisons. D'une part, pour son usage du rythme, une écriture extrêmement avec beaucoup de syncope, beaucoup de relances rythmiques dans son usage du langage, et en même temps la possibilité de mixer ces éléments rythmiques avec une matériologie de la poésie qui ne faisait pas du tout appel à des éléments lyriques, mais à des éléments qui pouvaient être extrêmement descriptifs, extrêmement prosaïques pour certains. Et donc, ma première période, on va dire, donc, qui constitue ces deux livres, Une fable humaine et Aïboum, avec un troisième également qui n'a pas encore été publié, qui s'appelle Cranax, qui est un troisième texte qui découle un peu de ce premier moment, qui est un peu mon moment rythmique, entre guillemets, avec une attention plus forte à une sorte de percussivité de la langue, et en même temps, où était déjà présente une volonté d'inscrire le langage à l'intérieur d'éléments, de pouvoir le brancher sur des éléments politiques, des éléments économiques. Dans Une fable humaine, c'est un texte au départ qui le point de départ de ce texte, c'était le film de Pasolini qui s'appelle L'Arabia, qui est un poème qu'il récite sur des images d'actualité. Les images d'actualité de mai 68, des révolutions cubaines. C'est un poème pour moi qui est très important. Et j'ai utilisé les personnages de Prométhée et d'Épiméthée, et je les ai branchés un petit peu sur l'actualité à la fois politique et des transformations liées à la technologie aujourd'hui. Et on va dire que dans ce que j'écris aujourd'hui, c'est-à-dire la plupart des projets que j'ai, qui sont en cours de finalisation, poésie classe moyenne, il y a un autre poème qui s'appelle François Hollande, poème officiel, c'est plutôt cette dimension du neutre et d'une écriture qui peut, je dirais pas une poésie documentaire parce que le terme est pas tout à fait exact, mais en tout cas où j'ai asséché les éléments lyriques pour ne conserver qu'une espèce de de gang dans poésie classe moyenne, par exemple, c'est vraiment, j'interroge mon rapport à la poésie lyrique, à ce que j'appelle la dette lyrique, en quelque sorte. C'est un peu cet élément qui est toujours présent et y a un autre texte dont j'ai fait une lecture qui s'appelle Les poèmes de Clint Eastwood, où là, par exemple, j'ai traité la question lyrique en la déplaçant sur un autre sujet. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'écris une poésie lyrique, mais qui n'est pas la mienne, qui est celle de Clint Eastwood. Si Clint Eastwood avait écrit de la poésie, il aurait écrit... je ne sais pas s'il aurait écrit cette poésie-là, mais en tout cas, c'est un ensemble de poèmes qui essaie de reconsidérer la question lyrique, mais au second degré, en quelque sorte.